Cette conférence a pour objet l'anthropologie des classifications instrumentales. De ce fait, elle vient en prolongement de l'autre conférence sur l'anthropologie de l'organologie. Il est vrai que les classifications instrumentales, comme je vais le redire, sont une composante importante de l'organologie. Aujourd'hui, nous travaillons avec une classification en quatre classes, sur laquelle je vais évidemment revenir, qui possède environ 130 ans et qui nous ramène donc à la fin des années 1870 en Belgique. C'est donc la genèse, d'une certaine manière, de l'organologie moderne que je vais commencer par examiner dans cette conférence. Mais contrairement à ce que l'on peut voir écrit ou dit maintenant dans des travaux récents d'ethnomusicologie, je préférerais attribuer à cette classification internationale en quatre classes, celle dont on se sert aujourd'hui, une origine antique plutôt que l'origine indienne. Et donc je vais proposer de remonter à l'Antiquité tardive, c'est-à-dire en fait à l'époque de Boès et de Cassiodore, pour essayer de montrer en quoi les classifications que ces deux personnages ont proposées au tournant du 5e et 6e siècle me semblent être l'origine directe de cette classification actuelle internationale de l'organologie. J'essaierai d'expliquer ensuite, d'un point de vue anthropologique, ce qui me semble constituer le fondement même d'une classification, et notamment l'importance du critère classificatoire de l'usage et de la fonction, qui sont déterminants pour l'élaboration des catégories et des objets justement à classifier. Et donc, de ce fait, je proposerai d'examiner les fondements symboliques de la classification de Boès, qui me paraissent être complètement religieux et chrétiens. Et Boès était homme d'État romain, mais en même temps, évidemment, il a joué un rôle important dans l'Église à son époque. Si on postule que cette classification a pour origine lointaine celle de Boès au 5-6e siècle, il faut arriver à dérouler le fil du 5-6e siècle au 19e siècle chez Maillon en Belgique. Et donc c'est ce que je vais essayer de proposer de faire en regardant dans les principaux traités médiévaux de la Renaissance et du Baroque, comment on a tout simplement parfois adopté telle quelle cette classification ou parfois adapté, et comment aussi, parallèlement à cette classification en trois classes, a été élaborée historiquement à partir du Moyen-Âge une classification binaire. Je m'intéresserai aussi aux instruments dits hybrides ou hors classe, ou en tout cas qui sont fréquemment à cheval sur deux classes, parce que on verra que dans certains cas ces instruments possèdent un statut particulier du fait justement qu'ils ne sont pas totalement inclus dans une classe. Alors cette classification internationale, elle est toujours en usage, bien entendu, je vais y revenir. C'est celle à laquelle les ethno-organologues font aujourd'hui référence. Mais André Scheffner a proposé en 1936, dans son ouvrage « Origine des instruments de musique », une classification organologique qui fonctionne sur un principe absolument différent et qu'il me semble important de présenter en conclusion de cette conférence. Pour commencer, revenons à quelques généralités sur l'organologie et les classifications instrumentales. L'ethnomusicologie me semble être évidemment une branche disciplinaire de l'ethnologie, et de ce fait, en premier lieu, elle est sens de l'observation et de la description. Son socle demeure donc l'empirisme, notamment dans ses débuts, lorsque les Occidentaux ont découvert des civilisations et des musiques qui leur étaient totalement inconnues. Parmi le champ d'étude de l'ethnomusicologie figure celui des instruments de musique, qui sont des objets complexes et énigmatiques, alors je renvoie à la conférence sur l'anthropologie de l'organologie, et qui sont dans les cultures du monde en général infiniment plus diversifiés et parfois même problématiques que ceux qui constituent l'instrumentarium actuel de la musique savante occidentale. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, les ethnomusicologues durent observer, interroger, essayer de comprendre des objets étonnants qu'ils découvraient, décrire, nommer et classer. Et donc, pour cela, il a fallu se doter d'une discipline scientifique intitulée organologie, du grec organon, qui signifie l'instrument. Cette discipline n'est pas tant une préoccupation de la musicologie, entendue ici dans son acception habituelle d'étude du champ musical savant occidental. Encore qu'aujourd'hui, il existe depuis peut-être une vingtaine d'années des laboratoires scientifiques, universitaires et internationaux de référence, des groupes de recherche internationaux dans ce domaine-là, et des publications internationales de référence spécialement dédiées à l'organologie et en particulier au système classificatoire. Mais les ethnomusicologues, qui allaient découvrir en quelques décennies une part importante de l'instrumentarium mondial, allaient très vite avoir besoin d'outils communs de description et de classification. L'organologie, c'est l'une des constituantes de l'ethnomusicologie, et n'oublions pas que l'actuel département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme en France, qui est quand même une institution très vénérable, s'est appelé à sa création par André Scheffner, justement en 1929, le département d'organologie musicale. L'organologie, c'est donc à la fois une science de la description, on décrit scientifiquement et techniquement des instruments de musique, et en même temps, c'est une science de la classification de ces objets et de ces instruments. Il est donc tout à fait naturel de trouver dans des ouvrages d'ethnomusicologie, français mais internationaux aussi, bien entendu, des descriptions instrumentales à caractère classificatoire. C'est-à-dire qu'on va présenter n'importe quel idiophone comme étant un idiophone à entrechoc, par secouement, etc. Donc, dans la description, dans la qualification même de l'instrument, surgissent immédiatement des critères classificatoires. De même que les quelques rares synthèses et histoires que l'on connaisse aujourd'hui sur la discipline même de l'ethnomusicologie, qui est une discipline relativement synchronique, parce qu'à peine un peu plus vieille d'un siècle, ben, de même que ces quelques synthèses que l'on connaît ne peuvent omettre de s'arrêter, bien sûr, sur la question classificatoire et sur son évolution. Cela dit, je suis quand même un peu frappé, alors moi qui suis peut-être plus anthropologue qu'autre chose, je suis peut-être un peu frappé quand même à la lecture des écrits ethnomusicologiques précisément relatifs aux classifications, au peu d'intérêt finalement anthropologique de ces mécanismes classificatoires. Certes, on pointe fréquemment le côté inopérant de la classification internationale actuelle. Tout d'abord parce que ben, c'est précisément une classification internationale, et que son niveau de généralisation est très élevé et ne tient pas compte, mais pas du tout compte, on va le voir dans le courant de cette conférence, des concepts classificatoires locaux et endogènes. D'autre part, il arrive souvent, précisément, je l'ai dit, que des instruments de musique puissent appartenir à plusieurs grandes classes instrumentales. Et à chaque fois que cela se produit, on va voir que ça se produit souvent, eh bien, cela est toujours considéré d'une certaine manière comme la marque d'une imperfection même de ce système classificatoire. Cela dit, quand on s'intéresse un peu à l'histoire des procédés classificatoires, notamment dans le domaine instrumental, on s'aperçoit que cette épine méthodologique qui consiste à faire en sorte que peut-être un instrument appartienne au moins à deux classes ne date évidemment pas de la systématique organologique actuelle qui est donc apparue à la fin du XIXe siècle. Mais elle est beaucoup plus ancienne et Pierre Trichet, qui était un théoricien de l'époque baroque, en 1640, dans son traité des instruments de musique, évoque déjà la question des instruments qu'il appelle mixtes et qui sont à cheval sur plusieurs classes. Cette question, en fait, elle est inhérente à la pensée classificatoire. Dès lors que l'on crée des classes, on crée des exclus ou on crée des marginaux. Ça, c'est inhérent à cette pensée. Marcel Mauss, qui a réfléchi, évidemment, en tant que socio-anthropologue à la question des classifications, rappelle, je le cite, qu'il n'y a rien de plus arbitraire, de plus variable, ni de plus extraordinaire que les classifications. Et il rappelle que le jeu des catégories permet de poser des concepts et qu'en fait, tout l'intérêt de l'anthropologie des classifications, c'est précisément de faire l'anthropologie de ces concepts. Alors, il apparaît que les analyses anthropologiques les plus pertinentes sur les systèmes classificatoires, il y en a quand même en ethno-anthropologie, évidemment. Alors, il y en a des très très classiques, comme Lévi-Strauss et la pensée sauvage. Mais dans ce domaine-là, Marcel Mauss et Émile Durkheim ont écrit un texte fondateur au tout début du XXe siècle, en 1903, sur les procédés classificatoires dans de nombreuses cultures. Et sincèrement, ce texte, aujourd'hui, me semble toujours aussi actuel et pertinent qu'au moment de sa rédaction. Et donc, ces analyses anthropologiques, on s'aperçoit qu'elles concernent essentiellement, enfin, là où elles sont le plus pertinentes, me semble-t-il, c'est les systèmes classificatoires qui sont des binarismes, des dualismes, des bipartitions. Moi, en ce qui me concerne, comme j'ai travaillé sur la classification historique des hauts et des bas instruments à partir du XIIIe siècle, j'avoue que ces analyses anthropologiques sur les bipartitions m'ont été extrêmement utiles. Et on verra plus loin de quelle façon ils m'ont été utiles pour essayer d'examiner précisément les instruments qui sont pas tout à fait hauts ou pas tout à fait bas, c'est-à-dire qu'ils se trouvent un peu exclus par ce binarisme. D'autre part, quand on a affaire à la classification internationale actuelle en quatre classes, cordophone, aérophone, membranophone, idiophone, il arrive que les instruments mixtes auxquels on fait référence sur cette problématique-là, en fait, sont mixtes sur deux classes, et jamais plus que ça. Donc on s'aperçoit que dans cette classification par quatre, il y a des sous-ensembles binaires, deux par deux, qui surgissent très fréquemment. Je prends deux ou trois exemples, mais j'y reviendrai. Je prendrai l'exemple de l'arc musical, qui est à la fois un instrument à cordes et un instrument à vent, avec le souffle du musicien. Je prendrai l'exemple de la guimbarde, qui fonctionne exactement sur le même principe, aérophone, mais idiophone, puisque c'est le métal qui vibre. Et enfin, par exemple, le tambour à friction tournoyant, puisque là, c'est une membrane, le tambour possède une membrane, donc on entend la vibration de la membrane, mais s'il n'y avait pas l'air venant glisser sur cette membrane, grâce à la rotation de l'objet, évidemment, il n'y aurait pas de son. Donc au moins, ces trois objets sonores, ces trois instruments de musique, se trouvent concernés par ce problème des instruments mixtes sur deux classes. Et là, cette mixité organologique, elle est inhérente à notre classification actuelle par quatre classes, et pas par des systèmes endogènes de classification. D'autre part, parallèlement à certains systèmes classificatoires en plusieurs classes, par exemple notre classification actuelle en quatre classes, ou bien même la classification chinoise en huit classes, qu'on va examiner dans un instant, et bien parallèlement à ces grands systèmes classificatoires, évoluent, parfois depuis longtemps d'ailleurs, des systèmes binaires. Donc on s'aperçoit que ces classifications ne sont pas du tout exclusives d'autres principes d'organisation classificatoire, et que le binarisme est un mode d'organisation classificatoire qui est extrêmement répandu et qui concerne par exemple aussi la culture chinoise. Là, à chaque fois qu'il y a binarisme, en tout cas c'est très fréquent, la raison d'être même de ces binarismes, c'est essentiellement une raison symbolique et esthétique. On n'est pas dans un partage rationnel et scientifique des objets. Alors, à l'origine de l'organologie moderne actuelle et de la classification par quatre que l'on connaît aujourd'hui, il y a les travaux de classification qu'a entrepris à la fin du XIXe siècle Victor Maillon. Victor Maillon, qui a été le fondateur du musée instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Et en 1878, l'année qui a suivi sa nomination à ce poste de directeur de musée, qui a publié une classification générale des instruments de musique en quatre grandes classes. Ce qu'il a intitulé les cordophones, puis les aérophones, les membranophones et ce qu'il appelait lui les autophones. Et ces quatre classes étaient créées selon le principe de l'élément vibrant de l'instrument de musique, qui, respectivement à cette énumération des quatre classes, est donc la corde pour les cordophones, le vent pour les aérophones, les membranes, bien sûr, pour les membranophones, et les autophones, c'est la matière elle-même de l'instrument qui résonne et qui vibre quand on agit dessus. Alors, telles quelles, ces quatre classes et ce principe-là, sur lesquels je me propose de revenir longuement à travers cette conférence, bien sûr, appellent tout de suite une première remarque. C'est que cette classification ressemble à s'y méprendre à la classification indienne. En effet, et cette classification en Inde ne date pas du XIXe siècle, elle date pratiquement du début de notre ère. En effet, dans l'Inde classique, plusieurs textes sanskrits, notamment dans l'encyclopédie du Natya Shastra, signalent une division des instruments de musique en quatre classes. Alors, je ne suis pas du tout certain de la prononciation de ces mots qui sont des mots indiens, mais il y aurait tata, qui signifie donc le tendu et qui se rapporterait aux instruments à cordes, puis sushira, creux, tubulaire ou vent, qui donc regroupe tous les instruments à vent. Troisième classe, lavanada, qui signifie le noué couvrant et qui en fait désigne les tambours à peau. Et le gana, qui signifie le frapper et qui comporte les instruments métalliques comme les cymbales et les gongs. Et en fait, on s'aperçoit que ces quatre classes de la classification indienne, qui possèdent quand même au moins deux millénaires ou à peu près, ressemblent à s'y méprendre à nos cordophones, aérophones, membranophones et idiophones. Et alors du coup, de nombreux ethnomusicologues, dans le courant du XXe siècle, mais notamment depuis deux ou trois décennies à peu près, voient dans cette classification indienne une source d'inspiration directe chez Victor Maillon. Comment Victor Maillon, conservateur de musée bruxellois, aurait-il été influencé par cette classification indienne? Tout simplement parce que, à cette époque-là, un grand collectionneur d'instruments, qui s'appelait Tagore, Tagore est un nom répandu en Inde, qui a vécu de 1840 à 1914 et qui avait plusieurs milliers d'instruments du monde, a décidé d'en faire don dans plusieurs grandes structures. Par exemple, le Pitt Rivers Museum d'Oxford possède des instruments donnés par Tagore. C'est le cas aussi du Musée de la musique de Paris. Mais la plus grande partie de la collection de Tagore a été donnée au roi Léopold II, roi de Belgique, pour qu'elle vienne constituer l'essentiel des collections du Musée instrumental de Bruxelles, qui était en gestation à l'époque où Tagore fait don de cette collection. Emma Hillon hérite, je dirais presque du jour au lendemain, de centaines d'instruments de musique de toutes les cultures donnés par ce collectionneur indien. Alors, bien sûr, il y a là un fait indéniable d'une rencontre à un certain moment de ce conservateur de musée assez génial qui est Victor Maillon et d'un collectionneur indien passionné de musique et d'instruments de musique qui est Tagore. Mais au-delà du don des instruments, peut-on supposer qu'il y a eu un héritage théorique que Maillon s'est inspiré de la classification indienne théoriquement léguée par Tagore? Là, je doute fort de la probabilité de ce processus. Pourquoi ? Parce que quand on lit Scheffner, et quand on lit son ouvrage « Origine des instruments de musique », et quand on le lit attentivement, cet ouvrage, ce que j'ai refait précisément par rapport à ce point théorique-là que je suis en train de discuter, on ne trouve rien qui corrobore cette affirmation. Or, Scheffner, qui est une personne qui est décédée, je crois, en 1982, qui était extrêmement âgée, a travaillé au musée du Trocadéro. Il avait créé en 1929 le département d'organologie musicale, je l'ai dit en introduction à cette conférence, et il avait travaillé dans le cadre de ce département avec Kurt Sachs. Kurt Sachs, personnage éminent, évidemment, dans l'histoire du classification instrumentale, dont je vais reparler dans quelques instants. Or, Kurt Sachs connaissait Victor Maillon. Il a eu l'occasion de travailler avec lui. Et donc, de cette façon-là, André Scheffner a une filiation indirecte avec Victor Maillon. Or, quand on lit l'ouvrage d'André Scheffner, on s'aperçoit qu'il ne dit pas un mot de la classification indienne qu'il semble ignorer totalement. Et lorsqu'il parle de cette classification de Victor Maillon, il n'y voit aucune influence directe ou indirecte de Tagore, mais plutôt la volonté chez Maillon d'améliorer, je cite, c'est Scheffner qui parle, la vieille classification instrumentale occidentale en trois classes, cordes, vent, percussion, qui existait depuis évidemment très longtemps, et d'ailleurs qui est toujours en usage dans la musique classique occidentale. Il est possible que Maillon ait eu connaissance des principes de la classification indienne. Il est possible qu'il en ait eu même connaissance par Tagore. Il est possible que cette classification indienne soit venue le conforter dans ses choix. Mais fondamentalement, Victor Maillon a opéré par volonté d'améliorer le vieux principe occidental en trois classes, qui était profondément insatisfaisant pour tout esprit rationnel comme pouvait l'être Maillon, parce que dans cordes, vent, percussion, il y a deux critères classificatoires. Et pour cette raison, la classification ne peut pas fonctionner. Corde et vent, c'est l'élément vibrant, percussion, c'est un geste. C'est un geste instrumental. Si on avait été logique, on aurait fait friction, percussion, frottement, etc., ou bien corde, vent et d'autres éléments vibrants, mais certainement pas corde, vent et percussion. Donc c'est ce principe de vouloir améliorer cette vieille classification qui va guider Victor Maillon à inventer les deux autres classes. Alors peut-être qu'effectivement, dans cette volonté, dans ce choix, peut-être que des influences indiennes ne sont pas négligées, mais ne disons pas ce que dit peut-être maintenant de plus en plus l'ethnomusicologie récente et contemporaine, que la classification de Maillon est d'origine indienne. Je crois qu'il y a un raccourci là qui est un peu rapide et qui peut induire en erreur des jeunes chercheurs en particulier et des étudiants. Je considérerais que l'origine lointaine, sans doute, mais directe, de cette classification par quatre classes avec laquelle nous travaillons aujourd'hui, remonte en réalité à l'Antiquité tardive, qui est celle de la charnière du 5e et du 6e siècle, époque à laquelle ont vécu deux personnages dont l'un, au moins, Boès, a joué un rôle absolument déterminant dans l'histoire de la musique médiévale. Mais Cassiodore, qui était également contemporain de Boès, a occupé également une place importante. Boès était un homme d'État. Il était ministre et sénateur. Il était philosophe et mathématicien. Et lui, il a montré une prédilection pour la philosophie antique. Il la connaissait notamment par les travaux de Platon et d'Aristote. Et il a rédigé un ouvrage en 5 livres sur la musique de l'Antiquité, qui est, de ce fait, il a été l'un des plus grands transmetteurs des travaux d'Aristote et de Pythagore, mais aussi de Saint-Augustin, jusqu'au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, Boès est véritablement une autorité magistrale. Il va exercer une influence considérable auprès des théoriciens et des philosophes, et véritable autorité magistrale à l'égal d'Aristote. Alors, Boès semble être effectivement le premier théoricien occidental à avoir inventé et introduit une classification instrumentale ternaire. D'abord, c'est la musique en général qu'il organise de façon ternaire. Il y a, selon lui, la musique du monde, musica mundana, qui est en fait la musique des astres, parce que on postule évidemment que les sphères font de la musique, les astres font de la musique, etc. Ensuite, il y a la musique de l'homme, parce que on va évidemment du macrocosmos au microcosmos. Cette musique de l'homme, c'est la musica humana, et c'est l'harmonie du corps et de l'âme. Et puis la troisième catégorie musicale, c'est la musica instrumentis, la musique réalisée sur les instruments. Mais cette dernière, à nouveau, est subdivisée en trois, et c'est là qu'il introduit sa véritable classification ternaire instrumentale. Voici ce que Boès écrit, traduit en français moderne, évidemment, à propos de cette classe, cette troisième classe de la musique instrumentale. Elle est réglée soit par la tension des boyaux, par exemple, et là on comprend bien qu'on a affaire aux instruments à cordes, soit par le souffle, comme sur l'holos, donc là c'est les instruments à vent, ou par une percussion. C'est ainsi que l'on obtient les sons différents. Et donc Boès institue une division ternaire de l'instrumentarium de son époque, en tout cas de la musique instrumentale. Classification immédiatement reprise par Cassiodore, qui lui aussi adopte le principe des instruments à cordes, alors notamment il y classera les sitares, et il va appeler cette classe, il va donner à chaque classe un nom latin, bien sûr, comme on le fait à cette époque-là, et donc les instruments à cordes sont la classe des tensibilia. La classe des instruments à vent, dans lesquels il va classer les instruments à hanches ou les flûtes, par exemple, c'est la classe de l'inflatilia. Et puis, il y a la classe percussionalia, la classe des instruments à percussion, dans lesquels on classe, par exemple, les instruments de bronze, de cuivre et d'argent, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui, avec notre terminologie moderne, des idiophones. Cela dit, Cassiodore introduit une dimension qui est à la fois là aussi extrêmement intéressante, parce qu'en parallèle de cette classification ternaire, à nouveau, il réintroduit une division binaire qui semble apparemment d'origine religieuse. Il écrit en effet que les instruments sont soit profanes, soit théoriques et célestes. Et donc il assigne aux instruments une fonction différente qui est totalement antinomique et qui permet d'organiser à nouveau l'instrumentarium selon un binarisme, alors qu'il vient de l'organiser de façon peut-être un peu plus rationnelle selon une classification ternaire. Bon, ces deux classifications sont ternaires, comme l'était celle antérieure de Saint-Augustin. Seulement, Saint-Augustin, ce n'est pas les instruments qu'il classait, c'est l'univers sonore en général. Chez lui, il y avait les sons vocaux, vox, il y avait les sons soufflés, flatus, il y avait les sons rythmés, pulsus. Et les sons rythmés, ça pouvait être à la limite la voix rythmée, ça ne supposait pas nécessairement un son instrumental. Bon, ce principe classificatoire corde, vent, percussion, inventé par Cassiodore et immédiatement repris par Boès, ne semble pas avoir d'antériorité en Occident, avant Boès et Cassiodore. Même chez les philosophes et théoriciens de l'Antiquité grecque, comme par exemple chez Aristote. Il y a une filiation avec les classifications aristotéliciennes, mais cette filiation, c'est l'aspect ternaire des classifications. Parce que ce que classe Aristote, ce ne sont pas les instruments de musique, selon un principe rationnel et organologique. En fait, c'est les registres, les tessitures, vocales et instrumentales. Par tessiture et registre, c'est, pour adopter un vocabulaire plus commun, disons, le fait qu'une mélodie est aiguë, grave ou éventuellement médium. On dirait peut-être comme ça aujourd'hui. Alors, Aristote, lui, il dit qu'il y a des mélodies qui s'écoutent dans la gravité et qui sont graves. D'ailleurs, on voit bien la polysémie du mot grave, hein, qui est aussi au-delà du registre musical, qui introduit une notion morale, évidemment. À l'inverse, il y a les mélodies aiguës qui incitent à l'amollissement, et au milieu, il y a les mélodies qui laissent l'âme dans un état intermédiaire et lui assurent un maximum de stabilité. Et donc, c'est une classification par trois qui introduit la théorie que l'on va examiner rapidement, qui est celle de l'éthos. Même chose pour les rythmes. Aristote classe les rythmes de façon ternaire. Donc on voit bien que sa préoccupation n'est pas organologique à lui. Elle est morale, philosophique, un peu musicale peut-être, bien sûr. Et ces rythmes sont classés de façon ternaire selon qu'ils ont un éthos plus tranquille ou plus agité. Et pour cette dernière classe, plus agitée, eh bien, avec une subdivision en deux espèces, les rythmes qui ont de la vulgarité dans leur mouvement, ou alors ceux qui ont plus de noblesse. Et au bout du compte, ça fait trois classes. Un des disciples d'Aristote, Aristoxène de Tarente, a été un très grand théoricien de cette époque. Il a publié, il nous a légué, un traité d'harmonique, qui reprend lui aussi une classification ternaire des registres et des mélodies, avec un vocabulaire un peu plus technique peut-être, puisqu'il nous dit qu'il y a d'un côté des mélopées diastaltiques, alors celles-là, ce sont les mélodies les plus graves, et puis à l'inverse, il y a les mélopées systaltiques, celles-là, ce sont les plus aiguës, ce sont les moins nobles, ce sont celles qui incitent l'âme au relâchement et à la mollesse, et puis il y a les mélopées hésychastiques, qui sont celles de la tranquillité de l'âme et qui correspondent à un registre musical intermédiaire. Et sur ce principe-là, d'une organisation ternaire selon le principe de l'éthos, on va classer les hautbois grecs, que l'on appelle les aoloi, du pluriel de daoulos, on va les classer par taille et par tessiture différentes. Alors, les plus aigus sont évidemment les tessitures les plus décriées, les plus graves, ben, au contraire, les plus valorisées, et le mot qui est appliqué à ce moment-là pour les aoloi les plus graves, c'est le mot teleioi, qui signifie les hommes dans la force de l'âge. Et puis, les plus graves de tous, hyperteleioi, qui signifie au-dessus de la maturité, parfait. On voit bien la valorisation du grave à l'Antiquité grecque, cette valorisation du grave qui va passer ensuite dans l'esthétique musicale chrétienne. Et le grave va d'ailleurs être un des marqueurs du caractère christologique de la musique. Hormis les tessitures et les rythmes, Aristote ne cherche pas à étendre ses catégorisations au domaine instrumental. D'ailleurs, quand on lit l'ensemble de ses écrits qui ont trait à la musique, on s'aperçoit qu'il nomme peut-être, en tout et pour tout, qu'une vingtaine d'instruments de musique, ce qui est finalement très peu, lui qui a beaucoup écrit sur la musique. Y a-t-il eu des tentatives classificatoires avant Aristote? Alors, rien n'est moins sûr. Pour l'instant, nous n'en connaissons pas, en tout cas dans le domaine instrumental. Mais d'une façon plus générale, Moss et Durkheim, dans leur texte qui a aujourd'hui un peu plus d'un siècle, disent que notre pensée classificatoire moderne ne remonte pas au-delà d'Aristote. Ils disent qu'Aristote est le premier qui ait proclamé l'existence et la réalité de différences spécifiques. Bon, en tout cas, dans ces classifications, il est clair qu'un critère domine. Ce critère, c'est celui de l'usage, de la fonction et de la représentation symbolique. Et ce critère, il ne s'applique pas qu'à cette classification, il est universel, il est dans tous les systèmes classificatoires. Lévi-Strauss a beaucoup écrit sur les classifications, bien sûr, dans La pensée sauvage et dans d'autres écrits. Il n'est pas le seul anthropologue, bien sûr, qui a travaillé sur ce thème-là. Mais il rappelle que cette donnée est absolument essentielle, notamment à travers la première étape qui consiste à donner une existence aux objets que l'on va classifier en leur attribuant un nom, en les dénommant. Ben, la dénomination, c'est la première étape de la catégorisation. C'est celle qui donne aux objets une identité. Et donc, il dit que dans la plupart des sociétés, le fait de donner un nom aux choses, aux plantes, aux êtres, aux concepts, dépend de leur utilité. Il prend plusieurs exemples, nous en choisirons un ici, qui nous ramène à Hawaï, où il dit que chaque forme botanique, zoologique ou inorganique, pensée avoir été nommée et personnalisée, est une chose utilisée. Si une variété illimitée d'êtres vivants de la mer et de la forêt, de phénomènes météorologiques ou marins, ne porte pas de nom, la raison en est qu'on ne les juge pas utiles ou dignes d'intérêt. Donc l'utilité, utilité réelle, fonctionnaliste, ou utilité évidemment symbolique, mythologique, religieuse, peu importe, mais l'utilité donne une existence, une identité à ces objets, et permet du coup, évidemment, une fois que cette identité existe, de les considérer dans un ordonnancement général, dans une classification finalement. Ce principe existe dans toutes les classifications, il est à la base même du procédé classificatoire, et on va le retrouver dans la plupart des classifications autochtones. Et c'est vrai aussi des classifications instrumentales. Le problème, c'est que certains ethnomusicologues n'ont pas prêté beaucoup d'attention aux classifications autochtones en instruments de musique. Parce qu'on a appliqué de façon parfois ex abrupto la classification organologique internationale actuelle sans toujours tenir compte des classifications endogènes. Alors par contre, celui qui l'a fait de façon vraiment extrêmement rigoureuse et très intéressante, c'est l'ethnomusicologue Hugo Zemp, qui a fait plusieurs terrains dans sa carrière de chercheur. Il a travaillé sur l'Afrique, la Côte d'Ivoire, mais ses tout premiers terrains l'ont porté en Mélanésie, dans les îles Salomon, auprès des Aré-Aré. Et là, il est resté un certain nombre de mois, il a fini par recueillir le principe, il a pu reconstituer la classification endogène des Aré-Aré, qui divise, comme on le voit sur ce document, non pas les instruments de musique seulement, mais en fait, toute la musique, tous les types de musique, en quatre grandes classes, qui, avec toutes leurs subdivisions, comportent au total 20 sous-types. Ces quatre grandes classes, ce sont celles des bambous, bambous soufflés ou bambous frappés, et le bambou, dans cette société, est au cœur de la musique instrumentale, notamment avec ces magnifiques ensembles que Wolfzinck nous a révélés, ensembles de flûtes de pan, qui sont absolument extraordinaires, et qui donne à cette culture musicale une personnalité tout à fait étonnante et originale. Mais au-delà des bambous, les tambours de bois, qui jouent un rôle important dans cette société, rôle religieux, mais aussi fonction signalétique, puisque dans la plupart des langues à ton, on utilise des tambours de bois pour communiquer, pour dialoguer. Et on frappe à des endroits différents du tambour de bois, comme la langue à ton, dans ses différentes hauteurs, peut signifier évidemment des mots, des concepts différents. Troisième classe, les jeux d'eau, qui est une technique qui consiste à percuter la surface de l'eau avec la main et à produire un son véritablement instrumental très proche du son du tambour. Et enfin, les chants. Donc, ce n'est pas une classification organologique, puisqu'il y a les chants et la voix qui n'est jamais prise en compte dans les classifications organologiques. Et puis, en fait, les jeux d'eau, ben, c'est un genre. Les tambours de bois, c'est un instrument. Enfin, on voit bien que c'est une classification qui mélange un peu tout et qui organise, en fait, la pratique musicale et la représentation musicale dans cette société. Alors il y a un premier constat, qu'on trouve au sein de cette société des instruments qui ne sont ni des bambous soufflés et frappés, ni des tambours de bois. C'est même plus que probable, c'est même quasiment certain. D'autre part, comment sont organisées ces sous-classes? Et là, il faut se reporter dans la partie la plus à droite, évidemment, de ce tableau, parce qu'on s'aperçoit que ces sous-classes correspondent à des fonctions qui sont extrêmement précises. On a classé la musique en fonction des fonctions, justement, de leurs fonctions. Divertissement, travail, l'amour, l'éducation de l'enfant, la mort, la divination, la ritualisation sociale, politique et religieuse, la signalétique, la communication. Cela, ça se lit simplement en déroulant les 20 sous-types qui se trouvent les plus à droite dans cette arborescence. On s'aperçoit aussi qu'une autre forme d'organisation, c'est la sexualisation. Il y a les chants des hommes, par exemple, et les chants des femmes. On s'aperçoit que ces classifications, telles qu'elles sont organisées, prennent en compte la différence du jeu individuel pour le divertissement ou d'un jeu collectif qui est à ce moment-là plus fonctionnel et rituel. Donc, toutes ces classes ont été pensées et organisées en fonction de leur utilité et de leur représentation symbolique. Les autres instruments, il y en a probablement, les autres chants, je pense en particulier ici au chant enfantin, le folklore enfantin, qui ne trouvent pas place dans cette classification. Eh bien, ces genres ou éventuellement ces instruments ne sont même pas envisagés et nommés. Et par contre-coup, en creux, quand on voit un tableau comme ça, aussi pertinent et intéressant soit-il, on se demande tout de suite si, l'un des principes universels des mécanismes classificatoires ne serait pas précisément de n'attribuer une identité dans une classification qu'à des objets qui ont donc une utilité directe et réelle. Avant même de classer, il faut considérer l'objet à classer. Et je me replacerai alors dans un cadre qui est plus européen, historique, allemand en l'occurrence ici, mais en tout cas qui nous place au début de la Renaissance et qui fait référence au fameux traité instrumental de Sébastien Verdung, écrit en 1511. Et voilà ce que dit Sébastien Verdung, c'est une remarque extrêmement révélatrice et qui vient illustrer ce critère de la fonction de l'utilité et de la représentation symbolique. Donc, Sébastien Verdung est en train d'énumérer tous les instruments importants à son époque. Il les a dessinés, il y a des planches, il en parle longuement, et puis tout d'un coup, dans un paragraphe, il règle leur compte à plusieurs instruments qu'il déconsidère. Et voilà ce qu'il dit. On trouve en outre bien d'autres instruments incongrus que l'on tient également pour des instruments de musique, comme guimbardes, grelots, corps de chasse, corps champêtres, clarines, crécelles, violons de binche. Il y en a encore de nombreux, tels les petites flûtes. Il y a enfin le xylophone et beaucoup d'autres instruments du même genre. Tout ceci, je les tiens pour instruments de saltimbanque. C'est pourquoi je ne les nomme qu'à contre-cœur, plus encore, je répugne à les présenter et à les décrire, je les laisserai donc tout à fait de côté. Et voilà, avec un aveu d'une honnêteté désarmante, d'une honnêteté intellectuelle désarmante, ce grand théoricien nous expliquait que tout un instrumentarium de seconde zone qui n'a absolument pas à rentrer dans un traité théorique du début de la Renaissance de cette époque-là, va se trouver écarté de fait. Je pense que la classification tripartite de Boès et de Cassiodore relève beaucoup plus de ce principe que de la volonté de répartir d'une façon rationnelle l'ensemble des instruments de musique en usage à leur époque. Parce que, dans le cas contraire, si Boès et Cassiodore avaient été animés d'une préoccupation absolument objectivante, rationaliste et scientifique, pourquoi auraient-ils oublié, quand même, tous les instruments qui ne sont pas percutés et qui ne sont ni des cordophones ni des aérophones? Et il y en a quand même un certain nombre. Je prendrai le tambour à friction, je prendrai les racloirs, les hochets, les grelots, les sonnailles, tout instrument secoué, entrechoqué, etc. C'est une quantité d'idiophones dans les instruments de musique du monde qui existent évidemment déjà, bien entendu, à l'époque de Boès et de Cassiodore, et qui existent depuis bien plus longtemps, et qui existent bien au-delà de la sphère occidentale. Eh bien, tout simplement parce que, à leur époque, celle de Boès et Cassiodore, à l'époque de l'Antiquité tardive, et même plus tard d'ailleurs, on le voit bien avec Virdung au début de la Renaissance, dans la société occidentale, tous ces instruments et ces objets sonores constituent un instrumentarium de seconde zone. Ils ne méritent pas de figurer dans ce partage instrumental. Et en fait, cette classification historique de cordes, vents, percussions, telle qu'elle est imaginée par ces deux personnages de l'Antiquité tardive, je pense qu'elle prend seulement en considération des instruments de musique dont l'usage était prédominant à cette époque-là, usage religieux, usage politique, usage militaire. Et ces usages primaient, bien sûr, sur tous les instruments qui ne sont pas du tout envisagés dans ce partage ternaire et que Boès et Cassiodore, pour paraphraser Virdung, vont laisser tout à fait de côté. Je postule donc que nous sommes ici en présence d'une classification dont le fondement est symbolique et je rajouterai, est seulement symbolique. Et je pense que l'une des erreurs de l'organologie contemporaine, c'est de ne pas l'avoir perçue. Et comme notre classification actuelle en quatre classes de cordophone, aérophone, membranophone et idiophone n'est qu'une adaptation de cette classification par trois, notre propre classification moderne n'est qu'une classification symbolique également. Alors, cette classification de Boès fait apparaître deux critères différents. L'élément vibrant à travers la corde et le vent, et la notion de geste et de jeu musical dans le critère de la percussion. Le critère principal, puisqu'il concerne deux classes sur les trois, c'est l'élément vibrant. Et là, il va distinguer la corde, les cordes si on veut, et le vent ou les vents. Il va les opposer, et cette opposition n'a rien d'artificiel. En fait, elle est symbolique. Elle s'appuie sur une symbolique religieuse de ces deux éléments, puisque la corde a une symbolique religieuse extrêmement forte, en tout cas dans la pensée chrétienne historique de l'Occident, alors que le vent, s'il est souffle de vie et souffle divin, ce qui évidemment n'est pas rien quand même l'attribution d'une symbolique positive, penche beaucoup plus largement cependant du côté du dépréciatif. C'est-à-dire que le vent, c'est l'apanage du diable, des sorcières. On va le retrouver évidemment dans connoté à l'orgueil, à l'érotisme, à la mort, à la folie, etc. C'est tout ça le vent. Donc, ces deux classes, cordes et vent, vont opposer deux éléments vibrants qui ont une symbolique religieuse absolument différente. La corde est très religieuse, le vent est extrêmement profane. On aurait presque pu dire, Boès aurait presque pu dire, pour aller au bout de la logique symbolique, instrument de Dieu et instrument du diable, avec les instruments à cordes et les instruments à vent. On voit bien que Boès comme Cassiodore ne cherche pas à instaurer une systématique organologique rationnelle. Donc, d'un côté, instrument à cordes, instrument sacré, de l'autre côté, instrument à vent, majoritairement profane, et alors les percussions. Eh bien, la Bible est remplie d'instruments de ce type-là, cymbales, timbales, qui sont des instruments qui appartiennent plutôt, évidemment, au champ militaire et politique, et dans le cas du contexte biblique, qui vont signifier la gloire de Dieu. Alors, naturellement, il convient de ne pas les oublier, de même qu'il convient de ne pas oublier les cloches, par exemple. Et donc, voilà pour les percussions. Les percussions, c'est une classe qui n'est pas véritablement caractérisée selon le critère du religieux ou du profane. Alors, si on veut bien repenser maintenant, d'un point de vue symbolique, religieux, cette classification des cordes vent percussion, d'un côté, oui, le religieux avec la corde, ça c'est certain. Et de l'autre côté, le profane. Le profane contient quasiment tous les instruments à vent, mais aussi les percussions, je pense, qui sont au carrefour des deux. Ce constat incite à se demander dans quelle mesure cette classification de Boès et de Cassiodore est bien réellement ternaire. Certes, elle fait apparaître trois classes, et ce fait est indéniable. Mais la véritable division, en fait, n'est-elle pas plutôt binaire, entre instruments sacrés et instruments profanes? Ces instruments profanes se subdivisant à nouveau en deux classes. D'un côté, il y aurait les instruments à vent, qui seraient majoritairement opposés à la corde, bien sûr, et de l'autre côté, ces fameuses percussions, qui viendraient signifier ici la gloire divine. Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas affaire à un type de classification qui est en fait très répandue, qui est faite de deux classes opposées, dont l'une se subdivise à nouveau en deux? Classification trinitaire ou bien binarisme déguisé, c'est-à-dire en fait arborescence binaire à deux niveaux. On a vu que chez Aristote, la classification des rythmes procède de ce principe. Il y a souvent dans les... Si je pose la question, bien sûr, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a souvent dans les processus classificatoires, et bien au-delà de l'Europe et de l'Europe historique, ambiguïté entre binaire et ternaire, une ambiguïté fondamentale, qui est anthropologiquement très intéressante, qui a été relevé par Lévi-Strauss et sur laquelle il a écrit. Et d'ailleurs, il nous informe que certaines sociétés, notamment amérindiennes, ont du coup produit des classifications quinaires à 5, en mélangeant binaire et ternaire, justement. En tout cas, ce que je retiendrai ici de cette classification de Boès et Cassiodore, c'est évidemment le chiffre 3, alors dont la symbolique chrétienne, évidemment, est très puissante, mais cela dit, qui est quand même un chiffre important dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est-à-dire dans une époque largement pré-chrétienne, puisque tous ces théoriciens, Boès, Cassiodore, et puis d'autres après au Moyen-Âge, se sont largement inspirés des théories de l'éthos, éthos des mélodies, éthos des tessitures, éthos des rythmes, et ces théories de l'éthos postulent toujours qu'il y a trois classes, une très positive, une très négative, et une intermédiaire, qui est la classe de l'équilibre. Quoi qu'il en soit des fondements symboliques de cette classification, de Boès et de Cassiodore, sur lesquels je vais revenir quand même, il n'en ressort pas moins que le principal critère demeure l'élément vibrant. Et de ce point de vue-là, il est vrai que nous sommes assez proches de systèmes classificatoires orientaux, indiens et chinois. Peut-être qu'il y a eu, dans une histoire ancienne, des interinfluences qui ne sont pas à écarter. On connaît dans ces temps reculés, par exemple, les liens qui ont uni la civilisation grecque, la civilisation persane et la civilisation indienne. Donc ce sont des processus historiques qu'il ne faut pas nécessairement négliger. Il y a pu y avoir circulation des hommes, évidemment, circulation des penseurs, des philosophes, des écrits également, et on connaît dans certains cas des mécanismes de circulation de tout cela. Cela dit, les classifications orientales, elles aussi, sont symboliques. D'ailleurs, toutes les classifications instrumentales sont symboliques. La Chine a développé une classification en 8 classes d'instruments de musique. Littéralement, 8 sons, bayin. Et ces 8 classes ont été élaborées à partir du matériau des instruments de musique ou de la matière de l'élément vibrant. On a la classe du métal pour les cloches, la classe de la pierre pour les lithophones, et en Chine, il y a des lithophones, effectivement, encore aujourd'hui. La classe des soies pour les instruments à cordes comme les sitars, puisque, à la différence des cordes occidentales qui, historiquement, étaient faites en boyau, les cordes asiatiques et chinoises, souvent, sont en soie. La classe du bambou pour les flûtes, la classe des calebasses pour les orgues à bouche, la classe de la terre pour l'ocarina, la classe des peaux pour les tambours, et la classe du bois pour le frapper ou le racler. André Scheffner, qui, s'il ne connaît pas la classification indienne, par contre connaît bien la chinoise et écrit longuement à son sujet, considère que cette classification n'a pas pour base une pensée de type acoustique. Ce symbolisme, en effet, se réfère au chiffre 8, dont la portée symbolique est très forte dans de nombreuses civilisations, pas seulement chinoises, mais alors en particulier en Chine. Et François Picard, professeur d'ethnomusicologie à la Sorbonne, et sinologue renommé, l'a très bien vu, l'importance de ce chiffre 8. 8, c'est un chiffre qui a une haute valeur symbolique dans la société chinoise ancienne. Selon lui, cette liste des 8 classes d'instruments est totalement corrélée aux 8 secteurs de l'espace, c'est-à-dire les points cardinaux, les orients, avec les points cardinaux intermédiaires, donc ça fait 8 points au total, mais également les 4 saisons avec solstice, équinoxe, etc., et même les 8 vents. Et d'ailleurs, il y a un document ancien, qui ici montre sur un même schéma les 8 sons et les 8 vents. Alors, dans ce document, qui est tout en chinois et que je pense la majorité des personnes qui sont en train de regarder cette conférence, évidemment, ne comprennent pas, il faut savoir que l'orgue à bouche est associé au nord et au début du printemps, que la caisse de bois est associée au nord-est et à l'été, que le tambour est associé à l'est et au solstice d'hiver, la flûte au sud-est et à l'équinoxe de printemps, la sitar au sud et au solstice d'été, l'ocarina au sud-ouest et à l'automne, la cloche à l'ouest et à l'équinoxe d'automne, la pierre au nord-ouest et à l'hiver. Donc, il y a dans cette classification deux principes qui sont entremêlés. La matière, sans doute, mais la matière qui participe réellement à la qualité du son, ou alors la matière qui rentre dans la composition physique de l'instrument et qui n'influe pas sur le son. C'est pourquoi Scheffner estime aussi que cette classification est symbolique. Elle prend appui sur une approche physique de l'instrument de musique, sur le matériau, mais sa principale préoccupation, c'est de proposer un ordonnancement symbolique de la matière sonore. Parallèlement à cette classification par 8, François Picard nous apprend que les Chinois utilisent à des fins morales et esthétiques également des dualismes symboliques en musique instrumentale, qui sont très proches d'ailleurs de ceux qu'utiliseront à partir du Moyen-Âge les Européens, notamment à travers la classification du haut et du bas instrumental. Alors on voit ici que les sons instrumentaux sont classés selon ce qu'on appelle les orients, c'est-à-dire les points cardinaux, et ça c'est une technique classificatoire assez universelle qui n'est pas du tout spécifique aux Chinois. Moss et Durkheim nous précisent que de nombreux peuples, comme les Indiens unis par exemple, classent selon donc ce qu'on appelle les orients, et que dans ce cas précis des Indiens unis, la considération des temps est parallèle à celle des espaces. Il nous rappelle que dès qu'il y a orientation, les saisons sont rapportées nécessairement aux points cardinaux. Donc on s'aperçoit qu'il y a l'espace, le temps et puis l'objet à classer. Au final, cette classification chinoise est donc éminemment symbolique, tout comme l'est notre propre classification à nous, en tout cas celle qui lui a servi de classification originaire, qui est celle de Boès et de Cassiodore, et donc à plus forte raison, la classification organologique internationale qui en a découlé et que je pense devoir être considérée comme une amélioration moderne de cette classification ancienne de Boès et de Cassiodore. Dans de nombreuses cultures musicales du monde, comme nous le rappelle Geneviève Dournon, qui a beaucoup écrit sur l'organologie et les classifications, la grande majorité des classifications autochtones auxquelles on doit prêter une attention toute particulière quand on fait de l'ethnologie et de l'ethnomusicologie, la grande majorité de ces classifications sont bâties sur les critères de l'usage et de la fonction, du statut social, du statut politique, du statut clanique, du symbolisme religieux, du symbolisme sexuel, etc. Quelques exemples. Un exemple avancé par Hugo Zimp, justement, sur les populations d'Anne de Côte d'Ivoire. Hugo Zimp avait fait sa thèse sur les d'Anne de Côte d'Ivoire avant de partir en Mélanésie et avant de revenir ensuite en Côte d'Ivoire, où il a travaillé sur les rituels funéraires des joueurs de balafon. Mais chez les d'Anne de Côte d'Ivoire, on apprend, grâce à Hugo Zimp, que ces gens classent leurs instruments de musique d'après l'origine mythique de leurs propriétaires ou de leurs inventeurs. Inventeurs qui peuvent être d'ailleurs humains ou non humains. Alors, soit des génies, des dieux, des sorciers, des animaux, etc. Dans d'autres sociétés africaines, comme au Sénégal ou au Nigeria, par exemple, on prend en compte parfois la distinction entre le souffler et le frapper. Distinction assez générale. Ou bien la nature des gestes peut être à l'origine de la production du son, et donc évidemment de la classification. Ou parfois on a une combinatoire entre des modes de mise en vibration, la fonction musicale de l'instrument et de la musique, et le rôle du musicien. Et alors, ces combinatoires, apprend-on, transparaissent dans des terminologies vernaculaires, autour des notions de taille, de sonorité, de sexe de l'instrument, ou bien des relations de parenté pour des instruments de même type qui sont joués ensemble. En Indonésie et aux Philippines, Margaret Kartomi, qui a écrit sur les classifications instrumentales, a montré le parallélisme des schémas classificatoires locaux avec les structures sociales. Et parfois, ces sociétés établissent effectivement des distinctions entre des instruments qualifiés d'authentiques, c'est-à-dire en fait autochtones, et des instruments qualifiés d'étrangers, c'est-à-dire en fait d'origine occidentale ou parfois islamique. Pour en terminer et en revenir avec la classification de Boès Cassiodore, elle est peut-être une synthèse de traités anciens, de provenance peut-être lointaine. En tout cas, elle a connu une belle fortune puisque on la retrouve intacte jusqu'à nos jours. Encore aujourd'hui, dans la plupart des encyclopédies, des ouvrages de musicologie classique occidentale, et même si on va faire un tour au conservatoire de musique ou à l'orchestre symphonique, on entendra parler de cordes, vents, de percussions, comme si Victor Maillon n'avait rien fait finalement au XIXe siècle, ou ceux qui l'ont suivi, même si les vents se subdivisent aujourd'hui en les bois et les cuivres, parce qu'on tient compte évidemment du matériau des instruments et de leur timbre. Mais cette classification est restée telle qu'elle depuis le 5-6e siècle, et c'est bien la preuve que l'on a affaire à une classification symbolique totalement corrélée à des systèmes de pensée culturelle, et non pas à une classification rationnelle, objective et scientifique. On va retrouver cette classification au même moment chez l'Allemand Conrad, qui écrit également un traité à caractère didactique, évidemment, sur la musique. Et à partir de là, tous les grands traités de la Renaissance et du début du Baroque reprennent cette classification ternaire, comme celui dont j'ai parlé de Sébastien Verdung au tout début du XVIe siècle, en 1511, ou celui de Michael Praetorius, qui est le Syntagma Musicum qu'il a écrit entre 1618 et 1620, ou alors le très grand traité de Marin Mersenne, qui s'appelle L'Harmonie Universelle, écrit en 1636, ou bien celui légèrement postérieur de Pierre Trichet, le traité des instruments de musique, écrit vers 1640. Tous ces traités reprennent à leur compte ce système classificatoire ternaire. Trichet, lui, va un petit peu plus loin, parce que son texte est extrêmement détaillé, de ce point de vue-là, il est très intéressant, et c'est dans le texte de Trichet que l'on voit introduit le problème dont j'ai parlé en début de conférence, qui est celui des instruments mixtes, comme le dit Trichet, c'est-à-dire en fait hybrides et donc à cheval sur plusieurs classes. Un autre intérêt de l'ouvrage de Trichet, c'est de nous informer de tentatives beaucoup plus marginales, de classifications très localisées dans le temps et dans l'espace qui n'ont pas eu de postérité, mais en fait qui organisent là aussi le partage instrumental d'une façon dualiste, avec d'un côté des instruments monodiques et de l'autre côté des instruments polyphoniques et harmoniques. Voilà ce que dit Trichet, une petite phrase comme ça au détour d'un paragraphe, mais qui a quand même un sens important. « Je ne veux point blâmer ceux qui ont divisé ces instruments en monophones et polyphones, c'est-à-dire en ceux qui n'ont qu'un son, comme les sifflets et les apôts, et en ceux qui en ont plusieurs. » Et on voit bien qu'il y a une division des instruments de musique selon qu'ils sont monophoniques, monodiques ou polyphoniques. En réalité, cette opposition n'est pas le fait de Trichet. Elle est un petit peu plus ancienne. On la voit pour la première fois, semble-t-il, dans le traité d'un compositeur italien du tout début du baroque, qui s'appelait Agostino Acazzari, et qui a écrit un traité en 1607, dans lequel il distingue ce qu'il appelle les instruments fondamentaux, c'est-à-dire en fait ceux qui peuvent faire la basse continue, donc pour certains qui sont harmoniques, et d'autre part, ce qu'il appelle les instruments d'ornementation qui sont mélodiques. Finalement, un binarisme un peu du même type. Ce binarisme est repris immédiatement après, en 1609, par Adriano Banchieri, avant de se retrouver chez Praetorius en 1618, ça voyage, hein, ça va de l'Italie en Allemagne, et donc dans le Syntagma Musicum de Praetorius en 1618, on retrouve la même classification, et puis en 1640 chez Trichet. Alors, on s'aperçoit que ces traités circulent avec une grande facilité à cette époque, les théoriciens se tiennent évidemment au courant de l'actualité théorique, savent exactement ce qui a été publié, et mettent parfois des jugements sur l'écriture d'autres théoriciens, d'autres pays éventuellement. En tout cas, ce système classificatoire qu'évoque Trichet dans cette phrase, entre instruments monodiques et polyphoniques, finalement il est très proche en réalité de celui des hauts et des bas instruments qui va se répandre très vite à partir du XIIIe siècle. Alors précisément, au XIIIe siècle, en Europe et en France, apparaît une classification parallèle à celle par trois de Boèce et Cassiodore. Cette nouvelle classification, elle est dualiste, et apparemment, elle est fondée sur le critère timbrique du volume sonore. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les instruments sont divisés en deux classes, selon qu'ils sont déclarés haut, c'est-à-dire puissant, du point de vue du volume sonore, ou bien bas, c'est-à-dire faible. Parallèlement, on continue toujours, évidemment, je l'ai dit, je viens de le rappeler, à utiliser la classification par trois de Boèce et de Cassiodore. Quels sont les instruments qui sont dans ces deux classes des hauts et des bas instruments à l'époque médiévale? Dans les bas, tous les cordophones, les flûtes douces et le petit orgue positif et portatif, petit orgue médiéval dont le son effectivement est assez ténu. Dans les hauts, tous les autres aérophones, alors toutes les autres flûtes, cornemuses, hautbois, chalumeaux, trompes, cornets, bon, c'est beaucoup d'instruments qui sont souvent très puissants. Et puis quelques timbales, enfin membranophones comme les timbales, qui sont déclarés faire un bruit de tonnerre, instruments militaires, guerriers, qui viennent signifier la puissance des pouvoirs et l'agressivité des armées, et puis quelques rares idiophones. Voilà pour les hauts. Alors, voilà, on est dans un binarisme instrumental. L'instrument est bas ou haut. Mais en fait, il n'y a aucune autre classe intermédiaire. On est tout l'un ou tout l'autre. Avec le critère du volume sonore, évidemment, on se rend compte tout de suite, si on était dans une perspective objective, objectivante et rationnelle, que le binarisme sonore ne fonctionne pas, bien sûr. Il faudrait avoir introduit une conception graduelle et progressive du volume sonore. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un instrument doux? Qu'est-ce que c'est qu'un instrument puissant? Plusieurs instruments doux font un son puissant. Un son puissant, dans un contexte bruyant, perd toute sa puissance. En fait, ça ne veut pas signifier grand-chose. Il est évident, de toute façon, qu'il n'y a pas deux catégories clairement délimitées, mais en fait, toute une série de phases intermédiaires, si tant est qu'on soit à ce moment-là, bien sûr, animé de préoccupations objectives, scientifiques et rationnelles. Ce point est repris par des anthropologues, pas pour parler de musique ou de musique instrumentale ou d'histoire, mais d'une façon plus générale, les anthropologues qui se sont intéressés au binarisme. Et je reviens à une remarque que j'ai faite en tout début de conférence, lorsque j'ai dit que l'anthropologie des classifications, des systèmes classificatoires qui s'étaient intéressés au binarisme m'a été d'un grand secours dans ma recherche théorique, parce que chez ces anthropologues, j'ai trouvé évidemment une matière scientifique, une réflexion pertinente que je n'ai pas toujours trouvée, disons, dans des écrits à caractère musicologique ou ethnomusicologique sur ces questions. L'un des anthropologues qui a travaillé sur les systèmes dualistes et binaires, c'est Leach, Edmund Leach. Et lui ne travaille pas sur la musique, bien sûr, mais sur des objets plus généraux, et en particulier sur le sacré et le non-sacré. Voilà ce qu'il écrit. Nous avons besoin de considérer, non pas simplement que les choses dans le monde peuvent être classées en sacré ou non-sacré, mais aussi en plus sacré ou moins sacré. Donc il ne suffit pas non plus dans les classifications sociales d'avoir une distinction moi, ça, nous, eux. Nous avons aussi besoin d'une échelle graduée, proche, éloignée, qui me ressemble le plus, qui me ressemble le moins, etc. Avec une classification de type dualiste, axée sur le critère du volume sonore, les théoriciens, musiciens, chroniqueurs médiévaux, puisque je rappelle que cette classification date du XIIIe siècle, eh bien, ils ont écarté d'emblée toute chance de traiter objectivement le problème. Voilà, on crée deux classes qui sont a priori totalement antinomiques, et l'on peut être que dans l'un ou que dans l'autre. Je rappelle que lorsque la division binaire des instruments en haut et bas instruments apparaît au XIIIe siècle en Europe, ça fait déjà 7 siècles que l'on utilise la classification ternaire de Boèce et de Cassiodore. Cette nouvelle classification en haut et bas remet au centre de ce critère classificatoire le volume sonore. Le volume sonore, c'est un des éléments du timbre musical finalement. Ce n'est pas considéré directement comme un élément du timbre musical par les musicologues, mais quand le volume sonore varie et quand il devient en particulier très puissant, ça modifie évidemment le timbre musical et le timbre instrumental. On peut le corréler donc d'une façon générale au timbre. Et il n'est pas exagéré de voir dans cette résurgence d'un élément timbrique, dans une classification médiévale, la résurgence médiévale occidentale de la théorie grecque antique de l'éthos. Comment l'éthos ressurgit-il au Moyen-Âge en Occident alors que cette théorie est grecque antique, et que, ma foi, depuis la disparition des grands philosophes, Aristote, etc., on l'a un petit peu oublié? Eh bien, parce qu'entre-temps, il y a eu les théoriciens du monde arabe, du Moyen-Âge arabe, je pense évidemment, bien sûr, Al-Farabi au Xe siècle, mais il y en a beaucoup d'autres, et puis il y a des théoriciens persans, qui se sont profondément inspirés, abreuvés même, on va dire, à la philosophie grecque antique, qui connaissaient très bien tous ces écrits, et qui se sont largement inspirés des écrits d'Aristote et de sa théorie de l'éthos. Et donc, ce qui me fait penser que la classification des hauts et des bas instruments doit chercher son origine chez les théoriciens arabes, c'est qu'il existe une classification instrumentale, bipartite, qui est antérieure à celle des hauts et des bas instruments. On n'en connaît qu'une en réalité, enfin en tout cas dans ce grand espace, on va dire qu'il ne serait pas un espace asiatique ou quoi, qu'il serait un espace plutôt occidental, et cette classification est arabe. Eh bien, ces théoriciens arabes répartissent les instruments selon un système binaire. Les instruments à vent d'un côté, les instruments à cordes de l'autre. Et ensuite, ces derniers sont éventuellement subdivisés alors selon le mode d'excitation des cordes, si les cordes sont pincées, frottées, frappées. Est-ce que les manches ont des frettes ou n'ont pas de frettes, etc. Est-ce que le son produit a une certaine longueur ou au contraire est très bref? Bon, mais fondamentalement, les cordes contre le vent. Eh bien, ce dualisme organologique, c'est exactement celui, on l'a vu, des hauts et des bas instruments. Les cordes, ce sont les bas, dans la culture occidentale, médiévale, et les vents, ce sont les hauts. Il y a donc là, vraisemblablement, une antériorité arabe immédiate, qui, elle-même, n'est qu'une reprise, une retraduction, une réadaptation de systèmes de pensée plus anciens, peut-être de l'antiquité gréco-romaine, enfin, en tout cas, l'antiquité grecque, certainement, à partir de la théorie de l'éthos et donc des éléments timbriques du timbre musical. On arrive maintenant, bien entendu, à la question des objets hors classe, des objets hybrides, très nombreux dans toute classification, mais alors évidemment très présents dans la classification organologique, dans toute classification organologique. Il est fréquent, en effet, que des instruments n'entrent pas pleinement dans l'une des classes, mais se trouvent à cheval sur plusieurs classes. On a vu que Trichet, déjà, reconnaît ce problème en 1640. Le problème se pose largement dans la classification internationale actuelle. Quand il se pose, il ne met jamais plus de deux classes en cause. Cordophone et aérophone avec l'arc musical, je l'ai déjà dit. Idiophone et aérophone avec la guimbarde. Membranophone et aérophone avec le tambour à friction. Dans la même classe des aérophones, je prendrai la kora africaine, par exemple, qui est à la fois une harpe et à la fois un luth. Et d'ailleurs, qui est en organologie décrite comme harpe-luth. Et on voit bien qu'elle n'est pas tout à fait une harpe, ni pas tout à fait un luth. Alors, nous sommes là dans le cadre de sous-ensembles bipolaires à des classifications plus importantes, par 3, par 4, etc. Et je me réfère à nouveau aux écrits de Leach dans un essai sur l'anthropologie de la langue à propos des injures relatives à certaines catégories d'animaux. Alors, on voit bien qu'on n'est pas dans un objet qui est immédiatement connexe à celui de la musique et des instruments de musique, mais les observations de Leach peuvent être, on va le voir, totalement transposées. Et Leach, en fait, reprend et développe des conclusions d'une autre anthropologue qui s'appelait Mary Douglas et qui avait travaillé sur les animaux anormaux, donc en fait sur la notion d'anormalité, de marginalité. Il remarque, Leach, qu'il existe une catégorie intermédiaire dans toutes les bipolarités théoriques et que cette catégorie est taboue. Il dit que d'ailleurs c'est de la répression de cette catégorie taboue qu'en fait serait née la bipolarité. Voilà ce qu'il écrit. Ma thèse, c'est que nous ne pouvons arriver à des notions verbales distinctes et opposées qu'en réprimant les perceptions de la zone frontière qui se trouve entre elles. Et il va nous expliquer comment cette bipolarité fonctionne de cette façon-là, en réprimant cette catégorie intermédiaire taboue. Ici encore, ce sont les catégories ambiguës qui attirent le plus d'intérêt, et les sentiments les plus intenses de tabou. La théorie générale et que le tabou s'applique à des catégories qui sont anormales vis-à-vis des oppositions de catégories bien tranchées. Si A et B sont deux catégories verbales, telles que B est définie comme ce que A n'est pas, et vice-versa. Et s'il y a une troisième catégorie C qui s'interpose dans cette distinction, de telle sorte que C possède à la fois des attributs de A et des attributs de B, alors, nous dit Leach, cette catégorie de C sera taboue. Et Leach rappelle que tout ce qui est tabou est sacré, a de la valeur, de l'importance, de la puissance, je le cite toujours, est dangereux, intouchable, sale, n'est pas mentionnable. Et bien entendu, il va rappeler, comme Mary Douglas d'ailleurs l'a fait avant lui, les liens étroits de cette troisième catégorie réprimée ici avec les pratiques de sorcellerie. Alors, si on veut transposer cette réflexion extrêmement pertinente et extrêmement intéressante à la question des classifications organologiques instrumentales, et en particulier à la classification internationale actuelle des instruments en quatre classes, eh bien, il faut travailler sur le système musical européen, puisque la classification moderne actuelle est d'origine européenne. Il ne faut pas essayer de l'appliquer à un instrumentarium autre, qui serait régi par des cadres conceptuels exogènes, bien sûr. Il faut rester cohérent au niveau de la méthodologie. Mais si l'on se replace dans les instruments européens, qui parfois, justement, sont décrits, ou en tout cas, dont on imagine tout de suite, on voit tout de suite, qu'ils sont sur plusieurs classes. Et si on voit quelle est leur considération et leur statut, on s'aperçoit que ces conclusions d'Edmund Leach et de Marie Douglas sont ici extrêmement pertinentes. Je prendrai l'exemple du tambour à friction tournoyant, que Claudie Marcel Dubois a si bien décrit dans les Pyrénées centrales et qui s'appelle dans cette région le toulouhou. Le toulouhou, c'est un tambour membranophone. C'est un tambour avec une membrane. Donc c'est un membranophone, évidemment, pas de problème de classification de ce côté-là. Mais pour faire du son, il faut tourner le tambour à l'extrémité d'une ficelle, d'une corde, et c'est le frottement de l'air sur la membrane, par sillage, qui va produire un son. Si le mouvement est rapide, le son est plus aigu, plus intense. Si le mouvement est moins rapide et moins important, le son décroît, devient plus grave et est moins perceptible. Donc, le tambour à friction tournoyant, c'est tout aussi bien un aérophone qu'un membranophone. Or, nous dit Claudie Marcel Dubois, c'est un instrument de sorcellerie, c'est un instrument de rituel. Et dans d'autres sociétés, comme par exemple les aborigènes d'Australie, c'est un instrument, alors là, ce n'est pas un tambour à friction, c'est tout simplement un rhombe, eh bien, c'est un instrument tabou, qui d'ailleurs parfois peut être frappé par certains interdits, puisqu'on dit dans certains cas que les femmes n'ont pas le droit de le voir et même parfois de l'entendre. Donc ce sont des rituels dans lesquels il y a en plus une discrimination sexuelle. Si je ramène à la classification européenne historique des hauts et des bas instruments ces réflexions très instructives de Leach et de Marie Douglas, eh bien là, je vais par contre tirer un certain nombre de conclusions et d'observations qui sont extrêmement pertinentes et qui viennent tout d'un coup expliquer pourquoi des instruments de musique dites populaires que l'on retrouve dans des rituels de sorcellerie, dans l'imaginaire de l'inframonde, des enfers, représentatifs de la danse macabre, etc., pourquoi ces instruments ont cette symbolique négative, pourquoi ils sont frappés de ce tabou? Tout simplement parce que il se situe finalement à l'intermédiaire du haut et du bas. Je rappelle que les bas sont de faibles volumes sonores, et dans une autre conférence intitulée « Les symboliques du sonore en France au Moyen-Âge et à l'âge baroque », j'ai essayé de déterminer un certain nombre de critères secondaires qui vont permettre de les définir plus précisément. Ainsi, je le rappelle, je l'ai dit dans cette conférence, dans les bas, il y a tous les instruments à cordes, qui sont évidemment des instruments résonnants, qui fonctionnent souvent à partir de l'harmonie, en tout cas de la polyphonie. Les hauts instruments, eux, sont des instruments à vent. Évidemment, ils ne sont pas résonnants et pour la plupart, ils sont monodiques. Or, plusieurs instruments ne réunissent pas l'ensemble de ces deux critères et vont se situer à cheval sur les deux catégories. Je prendrai plusieurs exemples qui me semblent absolument déterminants. Et par ailleurs, quand on a travaillé sur l'histoire de ces musiques populaires et sur l'anthropologie musicale historique, on sait à quel point ces instruments jouent un rôle important, bien sûr, dans l'imaginaire de la sorcellerie, de l'enfer, de la mort, etc. Je commencerai avec le cas du violon. Le violon, instrument de musique savante, bien fameux. En même temps, instrument que l'on voit représenté dans certains sabbats de sorcières et même éventuellement dans certaines représentations de la danse macabre à partir du XVIe siècle. Le violon, il est muni d'une caisse de résonance. Il est à cordes, donc il est dans les bas, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas harmonique. Et là, il ne partage pas le critère secondaire que j'ai défini pour la plupart des instruments bas. En tout cas, il est beaucoup moins harmonique que les viols. Et surtout, le problème, c'est qu'il n'est pas très bas, acoustiquement. Le violon, quand il est inventé au début du XVIe siècle, et pendant tout le XVIe siècle, et même encore au début du XVIIe, il va être considéré comme un instrument bruyant, criard, perçant, dont on se plaint parfois. Il y a des textes de la Renaissance ou du début du baroque qui se plaignent du bruit du violon. Et même plus tard, au XVIIIe siècle, on connaît un fameux pamphlet de Hubert Leblanc, qui est un, un pamphlet contre le violon, dans lequel, encore en 1740, alors que l'instrument est devenu un instrument classique que l'on connaît, avec une technique extrêmement raffinée, une musique savante de haute qualité, eh bien, malgré tout, Hubert Leblanc dit que le violon imite encore le miaulement de chat, etc. Donc, une image extrêmement négative encore au XVIIIe siècle. Autre exemple, les flûtes. Alors, à l'exception des flûtes doubles, mais qui sont totalement absentes du domaine français et plus largement occidental, les flûtes, évidemment, sont monodiques. Elles n'ont pas de caisse de résonance. Mais alors, du point de vue du volume sonore, ce sont des instruments ambigus. Il n'y a pas de critères sonores univoques dans la catégorie des flûtes. D'ailleurs, on a vu qu'il y a certaines flûtes déclarées douces qui sont classées dans les bas, d'autres déclarées hautes qui sont classées dans les hauts. Donc voilà un instrument qui n'a pas un critère sonore et acoustique univoque, et de ce point de vue-là, qui est un petit peu dans les bas et beaucoup dans les hauts. Et donc pas tout à fait dans les deux catégories, peut-être un peu dans une catégorie intermédiaire. Même problème avec la cornemuse. La cornemuse, c'est encore un cas de figure hybride, parce que cet instrument est haut acoustiquement, alors là, il n'y a aucun problème, il n'a pas de caisse de résonance, ça va très bien, mais la cornemuse est quand même un instrument polyphonique. Même si c'est une polyphonie assez rudimentaire, avec une mélodie et un bourdon, parfois deux bourdons, malgré tout, on entend quand même une concordance des sons. Il y a l'idée de symphonie, au sens étymologique du terme, dans la cornemuse. Or, la polyphonie et l'harmonie, c'est une des constantes, une des caractéristiques des bas instruments. La cornemuse est encore au carrefour des deux. Je prendrai l'exemple encore de la vielle à roue. La vielle à roue, c'est un instrument à cordes, donc elle est dans les bas. D'ailleurs, elle est classée dans les bas. Mais le problème, c'est qu'acoustiquement, elle n'est pas basse. Voilà un instrument assez criard, un peu aigre, d'ailleurs un peu acide à ces époques-là. Donc, encore, pour des raisons acoustiques, un instrument qui est à cheval entre le haut et le bas. Dernier exemple que je prendrai dans cette liste d'instruments mixtes, hybrides, si l'on veut, les membranophones de type tambour. Eux, ils sont incontestablement hauts, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des instruments qui fonctionnent avec des fûts cylindriques, qui font office de caisse de résonance. Le son résonne dans le fût. Et parfois même va faire résonner des cordes qui sont placées sous la peau inférieure du tambour, ou parfois d'ailleurs la peau de batterie, ça dépend. Ces cordes, on les appelle des timbres. Et voilà un membranophone qui d'ailleurs, dans son organologie, pour certains, admet la corde et en plus la résonance. Alors, voilà cinq instruments que l'on a classés par commodité, soit dans les hauts, soit dans les bas, parce que on a vu que ces deux catégories ne souffrent pas, évidemment, de catégories intermédiaires. Le violon, on l'a mis dans les bas. Bon. Et c'est sans doute parce qu'on l'a mis dans les bas que les ménétriers s'appellent joueurs d'instruments tant haut que bas, parce qu'ils jouent du hautbois comme des violons. Les flûtes, eh bien, soit elles sont basses, soit elles sont hautes. Ça dépend des types de flûtes. Là, il y a une certaine ambiguïté. La cornemuse, pas d'ambiguïté, on est dans les hauts. La vielle à roue, ça fonctionne avec des cordes, on est dans les bas. Mais c'est un partage complètement arbitraire, si on veut. Le tambour, on est dans les hauts. Mais pourtant, quand on regarde critère par critère et dans le détail, ce que je viens de faire de façon un peu rapide, on s'aperçoit que ces quelques instruments que je viens de citer ne sont jamais totalement dans le bas instrumental ou jamais totalement dans le haut. Il aurait fallu faire des catégories intermédiaires, mais le binarisme exclut évidemment les catégories intermédiaires, les réprime, comme viennent de nous le dire Leach et Marie Douglas. Or, ces instruments, bien entendu, je ne les ai pas choisis au hasard, ce sont les instruments des sabbats de sorcières, de la mort, du diable, des enfers, etc. C'est-à-dire, en fait, on est vraiment dans la catégorie du tabou, celle qu'a définie de façon théorique Leach et Marie Douglas, à partir de cette troisième catégorie C, qui serait constituée par des éléments que posséderait la catégorie A et des éléments que posséderait la catégorie B, définie comme tout ce que A n'est pas. Oui, il y a effectivement une catégorie intermédiaire, qui est une catégorie réprimée, réprouvée, entachée de tabous et donc très liée à la sorcellerie. Je terminerai cette conférence en parlant de André Scheffner. André Scheffner, je reviens à André Scheffner, qui a eu l'idée de publier une classification organologique fonctionnant sur un principe absolument différent de notre classification par quatre classes. Alors, cette classification d'abord par quatre classes, j'ai suffisamment dit dans cette conférence qu'elle a été inventée par Victor Maillon, et on est en 1878. Donc, Maillon conserve le principe des cordes et des vents, beaucoup plus ancien donc de Boès, alors ça devient les cordophones et les aérophones, et puis donc, l'histoire des percussions, c'est un critère qui n'intéresse pas, et il va continuer à baser sa classification sur le principe de l'élément vibrant, il va s'apercevoir que ce qui résonne dans les instruments dits de percussion, c'est soit des membranes, alors pour les tambours sur cadre, les grosses caisses, enfin on imagine bien. Donc ça devient les membranophones. Et ensuite, c'est la matière élastique même de l'objet qui résonne quand, par exemple, on frappe dessus, on le frotte, etc. Et donc, ces instruments sont des instruments autophones, qui seront appelés plus tard des instruments idiophones. Voilà la définition que nous donne Maillon de ces instruments autophones. Nous appelons autophones les instruments formés de corps solides, assez élastiques par eux-mêmes pour entretenir le mouvement vibratoire qui y est provoqué par l'un des trois modes d'ébranlement suivants, la percussion, le pincement, le frottement. Cette classification de Maillon, théorisée et publiée en 1878, elle est reprise et développée en 1913, c'est-à-dire quelque chose comme 35 ans après, par Kurt Sachs, qui était un savant allemand, et Hornbostel, qui était autrichien, et qui vont donc la reprendre, l'affiner, la développer en 1913, et puis la systématiser en 1914 dans un ouvrage qui va faire date, évidemment, en organologie. Curieusement, cet ouvrage et ce texte publié en allemand ne sera jamais publié en français, en tout cas pendant pas mal de temps. Le seul qui s'y est véritablement intéressé, c'est André Scheffner, qui en a proposé une traduction, mais non pas une traduction détaillée, littérale, mais une traduction synthétique, dans un article qu'il a publié en 1935. Il faudra attendre 1961 pour qu'une traduction intégrale de cet ouvrage fondateur de Sachs Hornbostel 1914 soit proposée, mais pas en français, on s'en doute bien, en anglais. Dans la classification de Sachs Hornbostel, les instruments autophones deviennent des idiophones. Et donc, les quatre classes se subdivisent elles-mêmes en sous-classes d'importance inégale et de principes variés. Je voudrais ici montrer, à travers la classification qu'a proposée Laurent Aubert dans son ouvrage « Planète musicale », les principes généraux de cette classification par quatre aujourd'hui. Alors je dois dire que tous les organologues ne sont pas absolument d'accord. Alors tout le monde est d'accord pour utiliser naturellement cordophone, aérophone, etc. Mais concernant les subdivisions de ces classes, et notamment la façon dont ces subdivisions sont définies, il y a un certain nombre de divergences entre les organologues. Mais Laurent Aubert, dans Planète musicale, nous propose un tableau synthétique de ces quatre grandes classes que je propose d'examiner ici de façon un petit peu en survol, parce que, évidemment, il n'est pas question ici de nous arrêter en détail sur toutes ces classes. Mais on verra qu'il y a quatre grandes colonnes dans ce document qui se donc déroule sur quatre pages, sur quatre écrans. La colonne la plus à gauche, eh bien, ce sont les quatre grandes classes. Alors ici, Laurent Aubert a choisi de commencer par les idiophones, peu importe. La colonne qui suit immédiatement est appelée ordre. Et là, c'est la subdivision de ces quatre grandes classes, le premier niveau de subdivision. On va voir comment ces subdivisions s'organisent, notamment chez les idiophones. Dans la troisième colonne, qui s'appelle détermination, nous avons des définitions ou des renseignements sur le jeu, la façon dont le timbre est produit, parfois la description de l'objet instrumental. Et dans la quatrième colonne, qui s'appelle type, eh bien, c'est le nom des types instrumentaux qui sont concernés donc par ces classes et qui sont définis ainsi. Nous avons sur cette première image, sur ce premier écran, les idiophones, mais dans la classification d'Aubert suit ensuite les membranophones, dont on voit que les classes finalement ne sont pas très nombreuses. Et puis nous arrivons aux cordophones qui ont généré un très grand nombre de types instrumentaux, de sous-types, de classes. Et enfin, les aérophones qui eux aussi ont généré de très nombreux types instrumentaux. On voit donc que cette classification proposée ici par Laurent Aubert est extrêmement détaillée, extrêmement argumentée, très descriptive. Mais je rappelle quand même que tous les organologues ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, si je puis dire, concernant la description en particulier des subdivisions organologiques et leur mode d'organisation. Et on peut trouver d'un ouvrage d'organologie à l'autre des différences très notables sur le statut de certains instruments par rapport à ces grandes classes ou par rapport à leurs subdivisions. Alors il y a quand même un point qui est intéressant quand on regarde comment sont faites les classes des idiophones. ces classes des idiophones sont organisées selon le critère du geste, à nouveau. Ça, c'est extrêmement intéressant. On s'aperçoit que les idiophones sont classés par entrechoc, par frottement, etc. Et on s'aperçoit que le critère du geste que Maillon voulait supprimer dans corde, vent, percussion, est bien précisément Sax et Hornbostel l'ont réintroduit dans la subdivision des idiophones. Et cela montre en même temps que la fameuse classification de corde, vent, percussion est une classification originelle, se trouve au départ de cette amélioration donc de Maillon en quatre classes. Alors, que va proposer André Scheffner par rapport à cette hégémonie, disons, de la classification de Maillon, Sax, Hornbostel? Il va proposer un système absolument différent qui prend pour base la matière du corps ébranlé en premier dans l'instrument, indépendamment du résonateur et indépendamment du percuteur. Une telle classification établit tout d'abord une division capitale selon que le corps mis en vibration est un solide ou un fluide. Alors là, c'est bien simple avec Scheffner, un objet, un instrument de musique ne peut pas être dans deux classes en même temps. C'est absolument impossible. Le premier donc grand niveau d'arborescence de sa classification, c'est le caractère solide ou fluide, c'est-à-dire en particulier l'air, bien sûr, du corps mis en vibration. Concernant ces deux classes d'instruments à corps solide ou d'instruments à air, Scheffner précise qu'elles écrivent, je cite, « deux pages entièrement distinctes de l'histoire des instruments de musique, avec en filigrane le corps entier, pour les instruments solides, versus la bouche de l'homme, pour les instruments fluides à air. Ces corps solides sont ensuite répartis selon le degré de dureté relative, ou de flexibilité, ou de tension qui les caractérise. » Et là, Scheffner est suffisamment précis dans sa classification pour éviter qu'un instrument de musique se trouve dans deux classes à la fois. Donc, il y a dans la classe des corps solides une arborescence par trois, selon le degré de dureté, de flexibilité ou de tension. Ensuite, dans chacune de ces trois classes, les corps solides sont répartis en fonction de la substance du corps qui vibre en premier. La pierre, l'os, la coquille, la corne, le bois, le métal, la terre cuite, le verre, etc. À la suite de quoi, donc c'est une véritable arborescence, hein, ces substances elles-mêmes sont divisées selon qu'elles composent un corps plein ou un corps évidé, un corps évasé, un corps tubulé, selon qu'il s'agit d'un bâton, d'une lame, d'une plaque, d'un tuyau, d'une coque, etc. Classification assez difficile à manier, assez complexe, mais reposant sur des principes acoustiques, des principes physiques. On est absolument éloigné de la symbolique dans cette classification. Et en même temps, je le répète, cette classification est imaginée de telle manière qu'un instrument de musique ne peut pas se trouver dans plusieurs classes à la fois. Alors, nous avons ici l'intégralité de cette classification telle qu'elle a été proposée en appendice du livre d'André Scheffner, « L'origine des instruments de musique ». Et on voit donc le premier grand niveau d'arborescence qui se répartissent grand A en corps solide non susceptible de tension, mais nous aurons grand B, grand C, bien sûr. Et puis ensuite, 1, le bois. Alors ensuite, plein, bâton, lame, donc une arborescence qui fonctionne très bien. Mais on a aussi sur la même page le bois évidé. Et puis si on tourne la page, eh bien on s'aperçoit plus loin qu'il y a le métal plein, le métal évasé ou tubulé. Et puis encore en tournant la page, nous arrivons à la pierre, à l'os, à la coquille, à la corne. Et enfin, nous arrivons à la deuxième grande catégorie instrumentale. On est toujours dans la premier niveau d'arborescence, bien sûr, mais qui sont les corps solides flexibles. Alors là, il y a des instruments en bois, en métal ou en os, qui sont soit pleins, soit évidés. Et puis ensuite, nous avons le troisième niveau, qui sont les corps solides susceptibles de tension, en particulier les cordes, bien entendu, mais également les membranes. Et quand on tourne la dernière page donc, de cette classification, nous voyons les membranes qui sont décrites, bien entendu. Et enfin, nous arrivons au deuxième niveau de cette arborescence, qui concerne tous les instruments qui ne sont pas à corps solide, qui sont les instruments à air vibrant, dans lesquels il y a ce que Scheffner appelle l'air ambiant. Par sillage, par exemple, j'ai longuement ou souvent parlé du tambour à friction tournoyant, eh bien c'est là qu'il faut le classer. ou alors, un peu plus bas, ce qu'il appelle les instruments dits avant. Et là, on va retrouver naturellement toutes les flûtes, les anches, les trompes, etc., etc. Donc voici cette classification de Scheffner, présentée ici de façon intégrale, telle qu'il a publié en appendice de son ouvrage. Et en fin de compte, son ouvrage n'est qu'une immense introduction à cette proposition classificatoire. Pour André Scheffner, ce mode de classification qui est unique, qui n'a jamais eu de postérité, qui n'a jamais été repris, présente plusieurs avantages dans une approche anthropologique du fait musical. Voilà ce qu'il écrit à cette occasion pour la justifier et pour la présenter. De cette matière du premier corps vibrant, pierre, bois, os, métal, air, etc., n'émane-t-il pas la qualité même du timbre propre à chaque instrument ou à chaque famille d'instruments, de sorte qu'une classification fondée sur le choix de cette matière, de ce timbre, distinguerait mieux à quelle nuance d'ordre sensoriel répond la diversité instrumentale. Enfin, dit-il, la répartition géographique des instruments sur la base de la matière de leur corps vibrant soulignerait les rapports qui existent entre ces instruments et les autres produits d'une même zone de civilisation. Ainsi, les métallophones apparaissant là où s'exerce le travail du métal, les sonailles de coquillages ou de coques de fruits étant liées à certains produits de la côte ou de la terre. Ces observations sont extrêmement pertinentes parce que on sait, par exemple, si l'on s'intéresse aux musiques indonésiennes de Bali ou de Java, que nous sommes là dans le domaine du métal instrumental, mais si l'on va chez les aré-aré étudiés par Hugo Zimp, on est là dans le domaine du bambou, par exemple. Donc ces observations sont effectivement tout à fait pertinentes, et cette classification est de nature à appuyer cette observation anthropologique. Et Scheffner continue à dire ceci. Un monde sonore du bois, un autre du métal. À chacun se rattachent de préférence des types particuliers d'instruments. Hochets, grelots, bâtons de rythme, tambours sans membrane, gongs, etc. Or, selon qu'il s'agit d'employer du bois, du métal, de la corde ou de la peau, la technique même de la facture diffère. Et dans le domaine de l'ethnographie, précise-t-il, un tel point est d'importance. Et voilà tout d'un coup revenir, ressurgir la notion de la technique, de la facture instrumentale, du matériau, la fabrication, le rôle évidemment éminemment symbolique que joue la fabrication, la facture, la décoration, les essences dans l'instrument de musique. André Scheffner est avant tout un anthropologue, bien entendu. La classification de Scheffner, c'est sans doute celle qui considère le plus l'instrument de musique comme marqueur et objet anthropologique. Mais, en contrepartie, c'est sans doute celle qui prend le moins en compte dans son principe la dimension symbolique. Peut-être que, si elle ne s'est jamais imposée en ethnomusicologie et en musicologie moderne, c'est précisément en raison de cette froideur symbolique. Comment tourner le dos alors à 15 siècles de symbolisme musical et instrumental, à ce long héritage de pensée religieuse auquel se réfère notre classification actuelle? Je vous remercie.